Radio Vatican, France-Afrique.
Mes auditeurs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cet autre rendez-vous des informations sur Radio Vatican. Au cours de l'audience générale, mercredi 19 juin à Place Saint-Pierre, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'Esprit-Saint en invitant les fidèles à prier tout spécialement avec les psaumes. Le pape qui, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés ce jeudi 20 juin, a lancé un appel à porter un regard attentif et fraternel aux migrants. À l'occasion donc de cette célébration, vous entendrez dans la suite de cette édition le père jésuite Éric Goué-Akoué, membre du service jésuite des réfugiés, JRS. Il évoquera, entre autres, la situation alarmante des réfugiés et des plaidoiries à mettre en place pour développer les droits des réfugiés dans les pays en temps de guerre. Bien avant, nous serons au Burkina Faso où la conférence épiscopale Burkina-Niger a tenu son assemblée plénière du 10 au 15 juin au Centre national cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou. Au Tchad, l'incendie d'un dépôt de munitions militaires à N'Djamena, la capitale, a fait au moins 9 morts et 46 blessés. Selon le gouvernement, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira en Afrique du Sud, au Nigeria, entre autres.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Audience générale du pape François mercredi depuis la place Saint-Pierre, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'Esprit-Saint et est revenu en particulier sur la prière des psaumes inspirée par l'Esprit et qui reste essentielle à notre vie de foi. Le compte rendu d'Olivier Bonnel.
Comme in ogni sinfonia vi sono in esso vari movimenti.
Telle une symphonie, les psaumes sont marqués par plusieurs mouvements, louanges, actions de grâce, supplications, lamentations ou réflexions sapientielles. Tous les livres de la Bible sont inspirés par l'Esprit Saint, mais le livre des psaumes l'est aussi en ce sens qu'il est rempli d'inspiration poétique, a remarqué le pape. Les psaumes sont importants car ils ont été la prière de Jésus, de Marie, des apôtres et de toutes les générations chrétiennes qui nous ont précédés. Et lorsque nous les récitons, a précisé François, Dieu les entend dans la grandiose orchestration qu'est la communion des saints. Le Saint-Père a rappelé ainsi que les psaumes restent essentiels à la prière des fidèles, une prière pour toutes les saisons, a-t-il précisé, et des textes qui ne perdent pas leur efficacité à force d'être répétés, bien au contraire, car ils renforcent la prière, ils respirent Dieu chaque fois qu'on les lit avec foi. Ces livres de l'Ancien Testament nous permettent enfin de nous ouvrir à une prière moins centrée sur nous-mêmes, encore dit le pape. À travers la bénédiction et l'action de grâce, il nous aide à être la voix de toute la création en l'associant à notre louange.
Avant de conclure cette audience générale, le pape a rappelé la célébration de la Journée mondiale du réfugié ce jeudi 20 juin, promue par les Nations Unies. Le Saint-Père a lancé un nouvel appel aux États à s'efforcer d'assurer des conditions humaines et faciliter les processus d'intégration des migrants. Le pape a souhaité que ce soit l'occasion de porter un regard attentif et fraternel sur tous ceux qui sont contraints de fuir leur pays à la recherche de la paix et de la sécurité. Nous sommes tous appelés à les accueillir, promouvoir, accompagner et intégrer ceux qui frappent à nos portes. Le souverain pontife a dit prier pour que les États s'efforcent d'assurer des conditions humaines aux réfugiés et de faciliter les processus d'intégration. La session de juin du Conseil des cardinaux, le C9 qui entoure le pape, la troisième de l'année, s'est achevée mardi après 2 jours de travaux en la résidence Sainte-Marthe. Comme lors de la session d'avril, plusieurs femmes ont pris la parole sur différentes thématiques économiques ou ecclésiales. Le pape et les cardinaux ont repris également leurs échanges sur la protection des mineurs face au scandale des abus. La prochaine réunion du C9 se tiendra en décembre 2024. Sachez également que lundi 1er juillet 2024, à 9h de Rome, dans la salle du consistoire du Palais apostolique au Vatican, le Saint-Père présidera la célébration de la troisième heure et le consistoire ordinaire public pour la canonisation de 5 bienheureux, parmi lesquels Giuseppe Alamano, fondateur des Instituts des missionnaires de la Consolata, et Carlo Acutis, jeune fidèle laïc italien. Dans l'actualité de l'Église en Afrique, au Burkina Faso, la conférence épiscopale Burkina-Niger a tenu son assemblée plénière du 10 au 15 juin au Centre national Cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou. Les travaux ont été essentiellement consacrés à l'analyse des rapports d'activité des commissions épiscopales. La situation sécuritaire des deux pays a également été abordée lors des assises. Pour l'essentiel de cette assemblée plénière, écoutons Mgr Laurent Dabiré, président de la conférence épiscopale Burkina-Niger.
Cette assemblée, on peut retenir trois choses. La première chose, c'est le partage que les évêques ont fait de la vie des diocèses et où il est apparu que l'insécurité marque de façon profonde la vie de nos diocèses et handicape énormément les activités et provoque un dépérissement des œuvres ecclésiales. La deuxième chose, c'est la vie des commissions épiscopales. Et là, on a été réconforté de se rendre compte que malgré l'insécurité, les commissions épiscopales ont fonctionné de façon satisfaisante. Et la troisième chose, c'est la situation nationale. Les évêques ont constaté qu'elle demeure préoccupante, mais il y a des lieux d'espoir. Mais tout cela a conduit les évêques à garder l'espérance et à encourager tous les acteurs de la vie ecclésiale à persévérer et à vivre la synodalité qui est en marche par les indications du Saint-Père, le pape François.
Mgr Laurent Dabiré, président de la conférence épiscopale à Burkina-Niger, dont des propos recueillis par notre correspondant Paul Da. L'actualité sociopolitique africaine à présent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat, mais dont le parti se retrouve sans majorité absolue au Parlement, a été investi mercredi lors d'une cérémonie au siège du gouvernement. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, la plupart des pays voisins, étaient présents. Cyril Ramaphosa est devenu président de la République pour la première fois après la démission de Jacob Zuma en février 2018. Un gigantesque incendie d'origine inconnue a ravagé les dépôts de munitions au camp de la réserve stratégique à N'Djamena dans la nuit de mardi à mercredi, causant des dégâts humains et matériels. Depuis N'Djamena, Edouard Takadji.
9 morts et 46 blessés, c'est le bilan présenté par le gouvernement tchadien quelques heures après l'explosion de la soute à munitions à la poudrière de Goudji dans le 2e arrondissement de la ville de N'Djamena. Cette situation qui a duré 2 heures de temps a provoqué une panique générale au sein de la population, mais le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, a sur sa page Facebook, dès le déclenchement de l'incendie, invité la population à garder son calme. Toujours dans le même sillage, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby, écrit sur sa page Facebook, et je cite, un incendie d'un dépôt de munitions au camp de la réserve stratégique a provoqué des dégâts humains et matériels. Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés. Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes et situer les responsabilités. Des obus tombés dans quelques concessions ont fait aussi de nombreux dégâts matériels. Ces habitants rencontrés expliquent comment ils ont vécu l'événement.
22h10, le drame a été commencé. Nous sommes de la clinique à Salam, non loin du camp fédéral. Des dégâts matériels, tous nos matériels sont détruits, comme laboratoire, les maternités.
C'était vraiment terrible, c'était vraiment dramatique. C'était hier nuit, dans les environs de 22h, nous avons entendu des coups d'explosion. On croyait que c'était vraiment la station-service à côté. Et puis voilà, par la suite, on a remarqué que c'était le dépôt des munitions qui avait pris feu.
Le président tchadien s'est rendu ce 19 juin visiter les blessés au centre hospitalier universitaire La Référence avant d'aller sur les lieux de l'explosion. N'Djamena, Edouard Takadji pour Radio Vatican.
Les autorités nigériennes mettent en garde depuis plusieurs jours les Nigérians contre une épidémie de choléra qui a fait au moins 30 morts depuis le début de l'année et qui empire avec l'entrée dans la saison des pluies. Les autorités au Burkina Faso ont annoncé mardi suspendre pour 6 mois la chaîne francophone TV5 Monde, l'accusant de diffuser des propos tendancieux après une émission abordant la situation sécuritaire dans le pays, dont l'armée a démenti des rumeurs de mutinerie dans les Karzènes une semaine après une attaque djihadiste meurtrière. La suspension de TV5 Monde, également condamnée à une amende de 50 millions de francs CFA, environ 76 000 euros, suit celle d'une longue liste de médias étrangers, principalement français, suspendus de manière temporaire ou définitive depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Abordons à présent la deuxième partie de cette édition. Dans le cadre de son programme Église verte, l'archidiocèse de Cotonou a signé un partenariat avec la compagnie béninoise de production polypropylène le vendredi 14 juin. Ce partenariat a pour but d'accompagner l'archidiocèse de Cotonou dans la promotion d'une conversion écologique à travers une meilleure gestion des déchets plastiques. Nous en parlons avec le père Georges Adeyé, coordonnateur du programme Église verte de cette archidiocèse.
L'archidiocèse de Cotonou, depuis le mois de mars 2023, a lancé un vaste programme dénommé Église verte. Donc l'ancrage institutionnel de ce programme Église verte, c'est la fondation de l'archidiocèse de Cotonou. Donc c'est à ce titre que la fondation a été portée à signer ce partenariat. Et dans le programme Église verte, le deuxième objectif spécifique vise la gestion innovante des ordures et déchets. Et il y a deux grandes activités liées à cet objectif spécifique. La première, c'est la dotation de toutes les structures de l'archidiocèse de Bakaodu. Et la seconde activité, c'est d'aider au tri-valorisation. Donc, commencer par faire le tri des déchets. Alors, donc, dans le cadre de notre programme Église verte, il y a la société CPPP. Et déjà, c'est que l'objet, surtout avec la CPPP, c'est de faire une synergie d'action pour assainir notre cadre de vie.
Comment cela va-t-il se dérouler, se traduire sur le terrain?
La traduction de cette action, cette synergie d'action, se fera d'abord par la mise à disposition de poubelles certifiées. Et donc, la CPPP met à la disposition de toutes nos structures, les paroisses, les centres de santé, les écoles, etc., des poubelles certifiées pour recueillir les déchets plastiques, les boîtes de canettes, les boîtes de conserve. Le partenariat vient vraiment renforcer deux grandes activités pour nous au niveau du programme Église verte. Celle de doter les paroisses de poubelles, et nous avons un partenaire qui met à notre disposition gratuitement, sans contrepartie, des poubelles certifiées. Et ensuite, travailler à l'utilisation de ces poubelles-là au tri des déchets. Nous n'en avons pas encore l'habitude, donc commencer par séparer voilà, les différentes catégories de déchets. Et donc, il y a les poubelles qui ont été mises à disposition. Nous venons juste de commencer. On ira vicariat forain par vicariat forain, donc un ensemble de paroisses progressivement. Puis, voilà, travailler pour que ces poubelles-là soient vraiment utilisées, recueillir les différents déchets qu'il faut. Et puis, faire l'effort de valoriser aussi les déchets parce que le tri, c'est pour la valorisation. Donc, concrètement, c'est ainsi que cela va se traduire sur le terrain avec le partenaire. Le 29 juin 2023, donc bientôt un an, l'archevêque de Cotonou a organisé une marche verte. Et le thème central de cette marche verte, c'était la lutte contre la pollution plastique, ce qui entrait dans la ligne droite du thème de la Journée mondiale de l'environnement de l'année 2023. Et donc, nous sommes tous ensemble embarqués pour la sauvegarde de notre maison commune, la Terre, en essayant d'assainir voilà, notre milieu de vie, notre cadre de vie, ou de travailler à un changement de comportement en vue de l'assainement de ce cadre de vie-là, et donc de nous mobiliser pour cette cause commune.
Père Georges Adeyé, coordonnateur du programme Église verte de l'archidiocèse de Cotonou, au Bénin. La Journée mondiale du réfugié sera célébrée comme chaque année ce 20 juin, dans un contexte où des milliers de personnes sont contraintes de se déplacer de force à cause de la guerre et des conflits dans leur pays ou région. La célébration de cette journée nous permet non seulement de souligner l'étendue réelle de cette catastrophe humanitaire, mais aussi de rappeler à chacun son devoir d'accueillir et de soutenir nos frères et sœurs en exil. C'est ce que nous explique le prêtre jésuite togolais Éric Goué-Akoué, membre du service jésuite des réfugiés, JRS, qui nous parle également des stratégies que cette œuvre apostolique de la Compagnie de Jésus met en place pour développer un plaidoyer efficace pour les droits des réfugiés.
La réalité des personnes déplacées de force dans le monde, qu'il s'agisse de déplacés internes dans leur propre pays ou de réfugiés contraints de fuir vers des pays étrangers, cette réalité représente une tragédie humaine globale. Dans ce contexte, célébrer une journée dédiée aux réfugiés, c'est non seulement rappeler au monde l'étendue réelle de cette catastrophe humanitaire, mais c'est aussi rappeler à chacun de nous notre devoir d'accueillir et de soutenir nos frères et sœurs en exil. Ces personnes ont perdu leur foyer, leur famille, leur dignité, leurs biens. C'est une occasion de lutter contre la mondialisation de l'indifférence, de la culture du rejet, de l'exclusion, et de nous rappeler la valeur intrinsèque de chaque vie humaine, comme disait le Saint-Père. En ce sens, célébrer la Journée mondiale des réfugiés, c'est se souvenir de ce message divin, je crois, adressé au peuple d'Israël et à toute personne humaine. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et donc la Journée mondiale des réfugiés est un moment propice pour sensibiliser le monde à la véritable nature de cette crise humanitaire.
Aujourd'hui, des milliers de personnes sont contraintes de quitter leur pays en raison des guerres et des conflits qui déchirent notre monde. La situation de ceux qui trouvent refuge ailleurs devient de plus en plus alarmante. Sur ce, comment pourriez-vous décrire le contexte de la mission du JRS face aux multiples besoins des réfugiés que vous accueillez ?
À la fin de l'année 2023, les Nations Unies ont signalé que plus de 117 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde en raison de la persécution, des conflits, de la violence, des violations des droits de l'homme ou d'événements perturbant gravement l'ordre public. Et ce chiffre de 117 millions, en constante augmentation, comprenait, fin 2023, 108 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, avec 37 millions de réfugiés et 6 millions de demandeurs d'asile. Pire encore, la précarité sociopolitique et économique de nombreux pays accueillant des réfugiés aggrave cette crise humanitaire. Les pays les plus pauvres comme le Tchad, l'Éthiopie, le Soudan et l'Ouganda supportent le plus lourd fardeau en accueillant 75% des réfugiés dans le monde. À cela s'ajoute un manque de financement adéquat et l'absence de mécanismes de redevabilité à l'échelle mondiale, ce qui exacerbe la situation. C'est donc effectivement, vous avez raison, une crise complexe ou un contexte complexe et alarmant. Le service de Jésus des réfugiés, qui est une œuvre apostolique de la Compagnie de Jésus, s'efforce de répondre de manière appropriée en travaillant dans près de 50 pays ou plus de 50 pays avec environ 11 000 collaborateurs, dont des jésuites, des religieux et religieuses, des laïcs et des volontaires issus des communautés de réfugiés qui participent activement à la mise en œuvre des projets. Et notre réponse, la réponse de JRS, s'articule autour de 4 priorités stratégiques. La promotion de la réconciliation, à la fois personnelle et communautaire, la santé mentale et le soutien psychosocial, l'éducation et les moyens de subsistance, et enfin le plaidoyer.
Le JRS vise à accompagner, servir et défendre la cause des réfugiés et autres personnes déplacées. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour développer un plaidoyer efficace pour les droits des réfugiés, surtout dans des pays africains en zone de guerre?
Effectivement, la mission de JRS, c'est d'accompagner, de servir et de défendre les droits des personnes déplacées de force. Et comme œuvre apostolique de la Compagnie de Jésus, JRS est un ministère de consolation qui donne priorité à la réconciliation et à la justice. Dans le cadre de son plaidoyer, JRS défend la justice réparatrice, en mettant l'accent sur le droit des victimes et des agresseurs à guérir et à rétablir les relations. Donc la stratégie principale de JRS en matière de plaidoyer consiste à donner la parole aux réfugiés et aux victimes de conflits afin que leurs témoignages sensibilisent les consciences et contribuent à la cessation des conflits en cours. Il est également crucial d'étudier les causes profondes des conflits, souvent liées à des injustices structurelles et à des inégalités dans la distribution des ressources naturelles. JRS plaide pour surmonter ces injustices et prévenir les conflits futurs. De plus, il est impératif d'appeler les États à respecter les droits humains fondamentaux, même en temps de conflit, et à adhérer aux droits humanitaires.
Et comment votre engagement en matière de plaidoyer se déploie-t-il concrètement?
Notre engagement en matière de plaidoyer se déploie à la fois au niveau local et international. Au niveau international, depuis nos bureaux à Rome, Genève et Bruxelles, nous cherchons à renforcer la coopération avec les gouvernements et les institutions humanitaires pour soutenir et accompagner les réfugiés tout au long de leur parcours. Nous œuvrons à influencer les décisions des donateurs internationaux et des gouvernements pour garantir et faciliter l'accès des réfugiés aux services vitaux, notamment l'éducation en situation d'urgence, la santé mentale et le soutien psychosocial. Dans nos bureaux régionaux et nationaux, pour en venir au cas de l'Afrique, JRS milite pour protéger les droits et la dignité des réfugiés et améliorer leur accès aux biens de première nécessité. Nos équipes sur le terrain collaborent avec des partenaires humanitaires, gouvernementaux, locaux, pour favoriser l'amélioration des politiques publiques.
Le père jésuite togolais Eric Gwe Akwe, membre du JRS, interrogé par Christian Losambe.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
À mes auditeurs, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.